Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Nous sommes ravis de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver chaque jour sur Europe 1 en direct ou en podcast pour une nouvelle plongée au cœur de l'histoire. Alors aujourd'hui, Franck Ferrand nous raconte le destin d'enfants nés dans des circonstances très particulières. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. J'avais, comme bien des gens, entendu parler des Lebensborn, cette sorte de nurserie très spéciale créée par les nazis dans l'intention de fonder une race supérieure. Mais je vous avoue que je n'en connaissais pas les tenants et les aboutissants. Il a fallu, il y a quelques jours, la parution de l'enquête de Boris Thiollet, journaliste d'investigation à l'Express, pour que je prenne la mesure du phénomène et je me suis dit que ça vous intéresserait.
Aux côtés de Boris Thiollet, vous allez nous présenter tout à l'heure une dame qui fait partie de ces enfants parfaits dont les parents étaient sélectionnés par les SS.
Oui, elle pourra nous livrer son témoignage et je vous le redis presque chaque jour, mais ça ne fait pas de mal de le dire. Si vous avez des précisions à nous donner ou des questions à poser, à nos invités notamment, n'hésitez pas à le faire. Il vous suffit de vous rendre sur le site d'Europe 1, europe1.fr.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Mai 1945, l'Allemagne nazie est en train de rendre l'âme, les Russes par l'Est, les Américains par l'Ouest sont en train de prendre le contrôle d'un pays ravagé par des mois de bombardements alliés. Le 3 mai, précisément, des blindés de la 3e armée américaine investissent un petit village à 40 km à l'est de Munich, Steinöhring. Ils prennent bientôt position autour de la maternité Orland, à quelques centaines de mètres des premières maisons. C'est là que près de 9 ans plus tôt, le 15 août 1936, Heinrich Himmler avait inauguré ce qui devait être la maison mère du Lebensborn. Ce qu'on appelle Lebensborn, ce sont donc ces nurseries d'un genre particulier créées par la SS entre 1935 et 45, avec l'ambition démente d'apurer la race aryenne et de fonder une race supérieure. Les parents étaient sélectionnés sur des critères raciaux, il les fallait grands, blonds, aux yeux bleus. Leurs enfants nouveau-nés étaient abandonnés pour être confiés à des familles modèles, sous une fausse identité. Vous imaginez l'ampleur des drames humains que cela va occasionner une fois effondré le régime nazi. Le Lebensborn, en allemand, fontaine de vie. Un nom bien poétique pour une réalité qui ne l'était en rien. Nom d'une puissance fantasmatique délétère, écrit Boris Thiollet. Cocktail de nazisme, de sexe et d'expérimentation génétique dévoyée, certains ont voulu y voir des haras humains, d'autres des bordels SS charriant toute une imagerie liée à notre insondable fascination pour le mal. La réalité, du moins celle que l'on peut approcher, est encore ailleurs, mélange d'utopies monstrueuses et de parcours individuels, de petits arrangements pour survivre à une époque sans merci. Et Boris Thiollet précise, jusque dans les années 1970 en Allemagne, ces maternités SS étaient souvent considérées comme une simple rumeur. En 1985, Georg Lilienthal, un jeune historien spécialiste de la médecine nazie et de l'eugénisme, y consacre sa thèse. Mais il va falloir attendre la réédition de cette thèse dans une collection de poches très populaire en 1994 pour que, nous dit Boris Thiollet, la question émerge enfin sur la place publique. Certains des 9000 SS-Kinder, c'est-à-dire les enfants SS allemands, ont commencé à sortir du silence. En Norvège, qui fut le premier pays où les nazis avaient exporté leur projet à partir de 1942. Quelques-uns des 12 000 Tiskungar, les enfants de Bosch en norvégien, ont osé réclamer justice au tournant des années 2000. Symbole vivant de la collaboration, ils ont été l'objet de sordides vengeances après-guerre. Mais, et je continue dans le texte même de Boris Thiollet, dans cette passionnante étude, un autre pan de cette histoire ahurissante est tombé dans l'oubli. Une nurserie SS a existé en France entre février et août 1944. C'était à La Morlaix, en lisière de la forêt de Chantilly, à 40 km au nord de Paris. Une autre fut en service de mars 43 à septembre 44 en Belgique, au château de Végimont, près de Liège. Les enfants du Lebensborn sont des orphelins de l'histoire, conclut Boris Thiollet. En 1945, dans les décombres de l'Europe où plus de 40 millions de personnes ont été anéanties, ils sont quantité négligeable. La nature criminelle de ce qu'ils ont subi n'est même pas établie aux yeux des Alliés. Revenons donc à Steinhöring, donc en ce 3 mai 1945, la maternité prévue pour accueillir environ 50 mères et un petit peu plus de 100 bébés est surpeuplée. À l'époque, elle héberge, outre des mères allemandes et leurs enfants, des femmes provenant des pays conquis par le Reich, des enfants kidnappés, etc. Les responsables du Lebensborn, depuis plusieurs jours, ont brûlé un monceau de papiers et de documents compromettants, ce qui évidemment ne va pas faciliter le travail des libérateurs. Les officiers SS en charge de l'endroit ont pris la fuite et c'est une simple infirmière, Paula Hessler, qui a pris les choses en main, aux côtés du médecin-chef Ebner qui est resté en poste. Il n'y a presque plus rien à manger dans cette maternité. L'état sanitaire est catastrophique. L'atmosphère d'angoisse est sans cesse accrue par l'avancée des Américains. Des Américains qui sont bien loin de se douter de ce qu'ils vont découvrir.
Uranus sur Europe 1, extrait des planètes composé par Gustav Holst, Franck.
Donc ce 3 mai 1945, les GI découvrent la maternité. Ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils n'ont pas conscience bien sûr d'entrer dans l'institution mère du Lebensborn. Je cite encore Boris Thiollet. « Ils sont sidérés, écrit-il, de découvrir que la grande demeure abrite, outre quelques mères et une poignée d'infirmières, une ribambelle d'enfants âgés de quelques semaines à moins de 4 ans. Combien sont-ils exactement ? Environ 300, diront les rares témoins allemands. Une liste utilisée ultérieurement par les services américains recensera l'identité de 162 enfants dont on connaît la nationalité, le lieu de naissance probable et pour la plupart l'identité de leur mère, voire dans quelques cas de leur père. » Alors, pour le moment, le petit détachement de soldats de la 3e armée américaine arrivé à Steinhöring n'a pas comme priorité d'établir les identités des uns et des autres, vous imaginez bien. En attendant le renfort d'unités spécialisées, les GI vont endosser le rôle d'intendant d'une nurserie en perdition. Ils vont pouvoir compter sur quelques bonnes volontés locales afin de transformer l'endroit en un hôpital pour enfants. L'ancien maître des lieux, Gregor Ebner, donc, a été arrêté à ce moment-là et transféré à Munich. Reste à trouver quelqu'un pour diriger les soins à apporter à tous ces enfants mal nourris, pardon, à ces enfants souvent malades et à leurs mères qui ne sont guère en meilleur état. Parmi les prisonniers allemands, les Américains choisissent pour occuper ce poste, pour exercer ses responsabilités, le docteur Josef Kleinle, qui est un médecin de la Wehrmacht qui, avant la guerre, a justement été pédiatre. Sous ses ordres, des religieuses issues d'un ancien foyer catholique pour enfants vont venir prêter main forte à ce qu'il reste sur place des infirmières SS, bien entendu. Steinhöring va devenir un hôpital pour enfants. Il sera plus tard, il va se développer, il deviendra un des importants hôpitaux pour enfants à l'échelle de la Bavière. Mais qu'en est-il des enfants du Lebensborn ? Les mères allemandes sont autorisées à quitter Steinhöring avec leurs enfants, mais que faire des autres ? De tous ces bébés enlevés à leurs parents, sélectionnés, de tous ces bébés transplantés en Bavière depuis leur centre de naissance respectif et dont on ne sait rien, on leur a pris, ne l'oubliez pas, jusqu'à leur identité. la décision est prise par les autorités de libération de les transférer vers un centre d'accueil spécialisé des Nations Unies. Ils vont partir progressivement de l'été à la fin de l'automne 1945. Ils sont accueillis par l'équipe numéro 182 de l'administration des Nations Unies pour les secours et la reconstruction. Une équipe composée d'une quinzaine de personnes sous la houlette de Greta Fischer. Dans un instant, on va revenir sur ces personnes et notamment sur cette Greta Fischer un peu extraordinaire. Cette unité humanitaire incorporée à la 3e armée s'établit dans la zone d'occupation en Bavière, à 35 km au nord-est de Munich, à Indersdorf exactement. Et là, bien parmi les 162 enfants recensés comme ayant été transférés de Steinering à Indersdorf, on retrouve 15 petits supposés français, écrit Boris Thiollet. Trois sont à coup sûr nés à la Morlaix, Ingrid, Edith et Helga. Deux autres, Jean-Pierre et Ute, y ont très probablement transité. D'où viennent les 10 autres? Pas de réponse, en tout cas pas de réponse évidente ou immédiate. C'est là que, évidemment, vont intervenir ceux qui sont en charge de l'enquête et qui vont devoir retrouver les origines de ces enfants. C'est une enquête extraordinaire qui a été menée, vous l'avez bien compris, à l'époque, mais qui a été menée aussi de façon beaucoup plus récente par ceux qui se sont penchés sur leur propre destin, sur leur propre passé. Qu'en est-il exactement de ces enfants découverts à Steinering? Eh bien, nous allons le savoir. Nous allons savoir puisque, en l'occurrence, un de ces enfants, Gisèle, est avec nous dans ce studio. Son témoignage, bien entendu, est particulièrement captivant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec vos invités aujourd'hui sur Europe 1, Franck, Boris Thiollet, qui est journaliste d'investigation à L'Express, auteur de Lebensborn, la fabrique des enfants parfaits, enquête sur ces Français nés dans les maternités SS chez Flammarion, et puis également avec nous, Gisèle, qui est une enfant qui est née dans le Lebensborn.
En épluchant, écrit Boris Thiollet, en épluchant attentivement différentes listes des Nations Unies, sans cesse réactualisées à partir de juillet 1945 pour assurer le suivi de ces enfants, je me suis rendu compte qu'elle mentionnait en allemand une foule de petits détails qui jusqu'alors m'avaient échappé. Ainsi, à propos de Gisela Magula, il est écrit « La mère est hongroise, après avoir fui le Heim, elle ne s'est plus préoccupée de l'enfant ». Nous allons voir ce qu'il en est réellement puisque Gisèle est avec nous dans ce studio. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner et merci à Boris Thiollet d'avoir fait cette enquête car vraiment vous avez fait un travail magnifique, je me permets de vous le dire. D'ailleurs, vous avez vu que dans mon récit, j'ai lu de très larges extraits de votre livre. Alors, avant d'en venir au cas particulier de Gisèle et d'une façon plus générale à ces enquêtes incroyables pour retrouver les origines de ces enfants français et belges, j'aimerais qu'on évoque d'une façon générale le projet dément de ces nazis qui avaient l'intention en quelque sorte de faire de l'eugénisme et de le faire de la façon la plus active possible.
Oui, absolument.
Dès le début du régime, milieu des années 30.
Absolument. Cette organisation, le Lebensborn, qui effectivement, je pense, est le projet quasiment le plus dément qu'aient eu les nazis, démarre en 1935, donc 2 ans après l'avènement au pouvoir d'Adolf Hitler et du parti nazi. Et ce projet qui vise réellement à créer une race dite supérieure, une race qui correspond à des critères ariens définis par le Reich. Donc, comme vous l'avez dit, il fallait donc obtenir des enfants grands, blonds, aux yeux bleus, avec toute une espèce de surhomme fantasmé, bien évidemment. Tout ça repose sur un fantasme absolu. Et donc c'est un projet évidemment monstrueux et criminel. Mais donc le Lebensborn est créé officiellement à la fin de 1935. La première maternité va ouvrir à Steinering, comme vous l'avez dit, en Bavière, un petit village de Bavière, en 1936. Et donc, ce projet, je crois qu'il faut insister sur un point, c'est qu'en réalité, donc, la politique raciale du Troisième Reich, elle a deux facettes. Il y en a une qui va mener à l'extermination de catégories de population dites inférieures ou indésirables.
Ce sont les deux aspects. C'est que d'un côté, on extermine ce dont on ne veut plus et d'un autre, on crée une race améliorée. C'est en tout cas l'état d'esprit dans lequel se situent Himmler et les autres.
Absolument. C'est-à-dire qu'on va donc éliminer les êtres dits inférieurs ou indésirables. Ça va mener, comme on le sait, à l'extermination des Juifs, des Tziganes, à l'euthanasie de personnes handicapées mentales ou déficientes mentales en Allemagne. Il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui ont été assassinées dans des programmes absolument odieux. Et ça, c'est la première étape. Et d'une certaine manière, je crois que dans l'esprit des nazis, cette première étape d'élimination, elle est relativement courte et relativement simple pour eux, si je puis dire. C'est terrible à dire, mais enfin, il faut de la logistique, il faut évidemment créer des camps de la mort, des trains. Mais on sait que, par exemple, que fin 1943, Heinrich Himmler parle déjà des Juifs à l'imparfait. Autrement dit, pour eux, dans quelques années,
il n'y en aura plus.
Il n'y en aura plus de ces gens indésirables. Et sur ces terres libérées, donc, de ces gens indésirables, eh bien là, on va substituer une population, donc encore une fois, qui se dite pure, racialement supérieure. Et donc, les gens qui devaient constituer cette race étaient ces enfants qui ont été, qui ont vu le jour dans ces maternités SS du Lebensborn. Donc, des enfants qui sont nés de parents qui avaient subi des sélections, une sélection raciale sur des critères.
Cette sélection, elle était purement médicale, en quelque sorte. Elle était physique, disons.
Elle se faisait essentiellement sur une apparence physique. C'est effectivement, donc, le géniteur potentiel et la mère potentielle se présentaient, subissaient des examens raciaux qui étaient effectués par des soi-disant spécialistes de la race, donc des SS qui s'appelaient les Rassenprüfer, ce qui veut dire les examinateurs de race ou les certificateurs de race. Et donc, ça correspondait essentiellement à des critères physiques. Effectivement, plus vous étiez grand, blond, avec les yeux bleus, mieux vous étiez noté, entre guillemets. Mais alors, ça poussait jusqu'au fait... il y avait plein de critères éliminatoires. Le fait d'avoir des pommettes trop hautes, qui correspondraient à un type slave, entre guillemets, pouvait être éliminatoire. Un système pileux trop important, des jambes arquées. Donc, on est dans une folie pure qui ne correspond évidemment sur aucun critère qui correspondrait à la connaissance génétique d'aujourd'hui. On est dans une apparence physique. Et en gros, ces enfants, les géniteurs, s'ils sont racialement valables, ils donneront naissance à des enfants potentiellement parfaits. Voilà. Et alors, ces enfants, excusez-moi, ces enfants potentiellement parfaits, ils ont une vocation, c'est d'incarner l'élite de ce Reich, de ce Troisième Reich. Un Reich qui est censé durer 1000 ans. Donc on est vraiment dans une perspective à très très long terme, une espèce de projet dément et millénariste de créer une nouvelle race qui va incarner l'élite du régime nazi.
Alors ce projet d'eugénisme va s'étendre à mesure de la conquête nazie, évidemment. Il n'a pas eu lieu seulement en Allemagne. C'est là que ça va d'ailleurs créer des situations tout à fait incroyables. Ça s'étend vers le nord de l'Europe, en Norvège, mais aussi en France, en Belgique, dans les pays occupés, tout simplement.
Oui, absolument. C'est-à-dire que ce projet va être exporté, entre guillemets, par les nazis dans tous les pays qu'ils occupent et où ils considèrent qu'il y a des populations, encore une fois, j'utilise leur vocable, hein, des populations racialement valables. Alors, le premier terrain d'exportation, si je puis dire, c'est la Norvège, tout simplement parce que la Norvège est, dans la fantasmagorie nazie, le berceau de cette fameuse race nordique germanique où, évidemment, on trouve des archétypes de gens grands, blonds, aux yeux bleus, comme on le sait. Il y en a plus en Norvège qu'en Andalousie, on le sait. Bon, voilà. Et donc, effectivement, ils vont exporter ce modèle en Norvège, à tel point qu'en Norvège, comme vous l'avez dit, il y aura plus d'enfants nés dans les maternités SS du Lebensborn qu'en Allemagne même. Et au fur et à mesure soit de l'avancée des conquêtes allemandes, soit au fur et à mesure des intérêts que peuvent servir ces enfants potentiels pour le Reich, on va créer des maternités équivalentes dans des pays. Donc il y en aura évidemment en Autriche, il y en aura en Pologne, il y en aura au Danemark, aux Pays-Bas, donc ce qui sont des populations où on peut considérer qu'il y a des populations naturellement intéressantes pour ce projet délirant. Mais effectivement, les SS vont finir par en créer une maternité en Belgique à côté de Liège, et une en France, donc à La Morlaix, à côté de Chantilly.
Vous dites que Himmler n'était pas très partant. Il se méfiait beaucoup de la France et des géniteurs français potentiels, des femmes notamment françaises.
Oui, parce qu'au départ, en fait, en Belgique, si je prends le cas de la Belgique, les Flamands qui parlent une langue germanique sont potentiellement de bonnes recrues. Les mères flamandes sont des bonnes recrues. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors par contre, que faire des mères wallonnes, donc qui parlent français, qui sont donc latinisées, et donc il y a des soi-disant spécialistes, des historiens qui vont se pencher sur la question pour décréter que finalement, les Wallons sont un peuple germain qui a été latinisé. En fait, ils sont tout à fait aptes à entrer dans le grand empire de la race que voulait créer Himmler. Et donc finalement, on décrète que les femmes wallonnes sont tout à fait aptes à procréer pour le Reich et donc par le biais du Lebensborn. Et il va se passer à peu près la même chose en France, avec un détail un peu pittoresque, si je puis dire. C'est surtout qu'en France, dès 1942, il y a déjà 50 000 enfants qui sont nés d'une union d'un soldat allemand et d'une mère française. Oui. C'est énorme. Et donc, les nazis se posent la question de se dire, qu'est-ce qu'il faut faire de ces enfants? Alors, on imagine peut-être les emporter en Allemagne, les couper de leur milieu naturel, de leur racine française. C'est un peu compliqué. On sait très bien que les mères s'y opposeraient. Là encore, il y a des études qui sont produites et on finit par décréter que finalement, les femmes qui sont issues d'un grand arc nord-est de la France, c'est-à-dire en gros du Jura jusqu'au Pas-de-Calais, si je puis dire.
Elles ne sont pas latines.
Elles sont plutôt germaniques et donc elles aussi sont aptes à offrir des enfants pour le Führer. Et c'est donc en gros, à la fois ce nombre d'enfants très important dont il faut faire quelque chose, plus ces études un peu fumeuses qui vont faire que les nazis, les SS vont décider d'implanter une maternité donc à La Morlaix près de Chantilly.
Ça, c'était le projet pour le Reich de Milan. Évidemment, l'histoire en a voulu autrement et le projet n'est pas allé très loin. Néanmoins, il y a eu quand même un certain nombre de victimes et ce sont elles sur lesquelles nous allons maintenant nous pencher.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 au Lebensborn. Ce sont ces maternités spéciales créées par les SS afin d'apurer la race aryenne. Franck.
Oui, c'est ça. Alors, une maternité mère qui se trouve donc à côté de Munich en Bavière et puis peu à peu des satellites en quelque sorte, dont un se trouve en Belgique, à Wégimont, et une autre à La Morlaix, donc tout près de Paris. Ce qui est le plus fascinant et ce sur quoi porte l'essentiel de votre enquête, Boris Thiollet, c'est le sort de ces enfants belges et français, justement. Parce que lorsque les Américains, c'est ce que je racontais rapidement tout à l'heure, lorsque les Américains libèrent l'Allemagne, lorsqu'ils arrivent en Bavière et qu'ils découvrent ce Lebensborn, bon, il est relativement facile de régler le sort des mères et des enfants allemands. Mais que faire de tous ces enfants français et belges dont on ne sait rien, même pas l'identité? C'est ça qui est assez... On a du mal à imaginer, mais ce sont des enfants qui sont devenus des enfants quasiment, non pas virtuels, puisqu'ils existent évidemment, mais qui n'ont plus d'attache familiale. C'est ça qui était étrange.
Oui, non seulement leur identité a été occultée, mais surtout ce sont de petits enfants. Alors, pour certains, on dispose d'un prénom qui est théoriquement un prénom plutôt germanique, puisqu'on leur donnait des prénoms germaniques, puisqu'ils étaient censés, encore une fois, s'inclure dans cette grande race germanique, nordique, aryenne. On a parfois l'identité de la mère, surtout, ce sont de jeunes enfants. Donc, pour la plupart, ils ne parlent pas. Ils sont bien incapables, évidemment, de raconter leur histoire, d'autant plus que, étant très jeunes, ils ne parlent pas. Une des modalités d'identification pour savoir d'où ils viennent, c'est de se fier au nom, à la consonance du nom de la mère. Donc on va se retrouver par exemple avec des enfants qui ont un nom à consonance française, mais qui en réalité sont nés à Wégimont du côté de Liège. Et leur mère étant d'origine wallonne, ils peuvent être attentifs. On leur parle, on essaie de leur parler en français pour voir. Bon. S'ils sont attentifs au français, s'ils ont l'air de tendre l'oreille, on va se dire potentiellement ils sont français. Donc on va les confier aux autorités françaises d'occupation. Ils seront rapatriés en France. Je pense que c'est notamment probablement ce qui est arrivé à Gisèle ici présente, puisque elle devait parler, entendre l'allemand, mais aussi probablement entendre peut-être un peu le français. Et donc voilà, elle a été rapatriée comme beaucoup d'autres. Par erreur en France.
Et les autorités françaises que vous montrez très bien, c'est assez surprenant, vont avoir à l'égard de ces enfants une attitude, j'allais dire protectrice certes, mais enfin un peu nationaliste aussi. Ils sont à nous maintenant. Il n'est plus question du tout de les renvoyer en Belgique, par exemple.
Hein. Bah non, en fait, ils sont français. Alors c'est effectivement un peu la politique d'intégration à la française. Oui, c'est effectivement, ça. On les accepte, on les prend en charge. Mais alors évidemment, pour leur éviter des ennuis, si je puis dire, on francise leur prénom. Donc ces enfants qui ont déjà un parcours extrêmement tumultueux vont de nouveau subir un petit changement d'identité, on francise leur prénom, il y a d'ailleurs dans les documents administratifs français, les préfets qui les accueillent dans les orphelinats, l'assistance publique, ce qui serait la DAS aujourd'hui, les préfets des départements ont la possibilité de également modifier, s'ils le veulent, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de cas, mais de modifier à nouveau leur nom de famille, de manière vraiment définitivement, si je puis dire, occulter leur passage en Allemagne maintenant, vous voyez, donc c'est vraiment des histoires où le parcours est aussi compliqué à l'aller qu'au retour, si
ce
je puis dire.
Ce qu'on a peu dit, ce qu'on a peut-être mal présenté, c'est le statut de leurs parents à ces enfants. Est-ce que c'était des volontaires? Est-ce que c'était des gens? Ça se passait comment? Parce qu'on a parlé de la sélection, mais à partir de quoi cette sélection?
En fait, il y a deux grands cas de figure. Parce que le au départ, le Lebensborn, si je puis dire, a une clientèle toute trouvée. Ce sont les jeunes femmes allemandes qui ont eu une liaison avec un soldat, potentiellement un SS, sachant que donc, encore une fois, les SS...
Donc des filles mères, en l'occurrence.
Des filles mères.
Ça, ce sera l'argument qui sera développé lors du procès de Nuremberg et qui fera d'ailleurs que les responsables du Lebensborn seront acquittés sur ces chefs-là.
Oui, puisqu'ils prétendront, finalement, ils plaideront le fait qu'ils ont travaillé pour une œuvre de charité qui aidait des filles mères, un peu désemparées, à accoucher dans de bonnes conditions et même à garder leur enfant. Et ils étaient promis un avenir un peu radieux, entre guillemets. Donc oui, ils plaideront le fait d'avoir œuvré pour une œuvre de charité, ce qui leur permettra en fait d'être acquittés et donc de repartir libre à l'issue du procès de Nuremberg. Voilà. Les alliés n'ont pas exactement compris de quoi il s'agissait. Ils n'ont pas perçu de la dimension criminelle de ce projet.
Alors, parmi les cas que vous suivez, que vous traitez, c'est une enquête. Hein. Je tiens à préciser que votre ouvrage, ça s'appelle donc Lebensborn, la fabrique des enfants parfaits. C'est une enquête que l'on suit aujourd'hui. Ça n'est pas un ouvrage historique, vous ne racontez pas. Vous nous racontez au contraire votre enquête, vous nous la faites vivre avec ses hauts et ses bas, avec ses rencontres extraordinaires. Et parmi ces rencontres, il y a donc Gisèle. Est-ce que vous pouvez résumer, parce que malheureusement nous n'avons pas un temps infini, mais est-ce que vous pouvez nous résumer le destin, la destinée si singulière de Gisèle?
Gisèle, tout d'abord, simplement pour vous donner une idée, j'ai retrouvé son nom en allant consulter des archives en Allemagne, des archives où sont regroupées toutes les victimes du régime nazi. Et parmi ces victimes, il y a évidemment les enfants du Lebensborn. Et donc, j'ai retrouvé sa trace dans ses archives. Nous avons pris contact. Je suis allé la rencontrer. Et elle m'a raconté ce qu'elle savait elle-même de ses propres origines, parce qu'elle avait entamé des recherches avant même que moi, je la trouve, si je puis dire. Et donc, son parcours, il est assez étonnant, puisque en fait, elle... Sa mère était donc une jeune femme d'origine hongroise née en Belgique qui a eu donc une liaison, peut-être une vraie histoire d'amour d'ailleurs, on ne le sait pas puisqu'on a toujours une incertitude sur l'identité du papa de Gisèle. Mais toujours est-il que c'était manifestement un soldat allemand. Et donc sa maman qui était jeune a eu la possibilité de la confier au Lebensborn de Ouigimont, c'est-à-dire de l'abandonner entre guillemets, mais on ne sait pas si elle voulait l'abandonner pour toujours ou simplement la confier à cet endroit le temps que la guerre se termine, peut-être, en espérant la récupérer. Mais ce qui est arrivé à Gisèle, c'est ce qui est arrivé aux autres enfants de Ouigimont et de la Morlaix, c'est qu'en 1er septembre 1944, c'est la débâcle, les Allemands évacuent Ouigimont en toute urgence, ils embarquent tous les gamins. Et donc Gisèle
se retrouve en Bavière.
Et tout le monde se retrouve sur les routes à se réfugier de maternité du Lebensborn en foyer, jusqu'à se retrouver effectivement dans cette maison mère. Et donc elle a fait tout ce parcours, en mai 45, le 3 mai 45, elle est à la maternité Steinering. Elle fait partie des enfants retrouvés par les Américains. Ces enfants ensuite, ceux qui ne sont pas allemands, ceux dont on essaie de comprendre la nationalité, sont-ils français, sont-ils belges ? Il y a des gamins qui viennent de Pologne aussi, il y a des gamins qui viennent de toute l'Europe occupée. Ceux qui ne sont pas allemands et dont on essaie de trouver l'origine vont être rassemblés dans un couvent, donc à Indersdorf, vous avez cité cet endroit tout à l'heure. Et là, il y a un point quand même absolument extraordinaire dans cette histoire d'Indersdorf. Il y a une équipe des Nations Unies qui prend en charge les enfants isolés. Et dans ce couvent, qui existe toujours, qui aujourd'hui est une école, vont se retrouver mêlés les petits-enfants du Lebensborn, donc qui sont vraiment petits, on va du nourrisson aux enfants qui ont 4-5 ans, des orphelins, c'est-à-dire des enfants de travailleurs forcés, de travailleurs esclaves qui viennent des pays de l'Est, qui ont été emmenés en Allemagne, et y compris vont se retrouver avec eux des jeunes adolescents, des enfants qui ont entre 12-14 ans, qui sont des jeunes juifs survivants des camps de la mort. Et dans un même endroit,
tous ces enfants se retrouvent ensemble.
Et on va les ramener à la vie d'une certaine manière, les ramener vers l'humanité, ensemble. Tous ensemble. Ouais. Et il y a des photos absolument extraordinaires où on voit des jeunes survivants juifs, en gros, coiffés ou donner le biberon ou la béquée, si je puis dire, à des petits-enfants qui, eux, étaient destinés potentiellement à devenir leur maître et même leurs exterminateurs.
Oui, c'est une assez belle ironie de l'histoire. Qu'est devenue Gisèle à partir de là ? Elle va pouvoir nous le dire elle-même puisqu'elle est avec nous dans ce studio.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Sur Europe 1 des planètes de Holst, il s'agit de Neptune, Franck.
Neptune, sous le signe duquel nous sommes, pour évoquer ce sujet particulièrement sensible et tout à fait incroyable, pour tout vous dire, résumé et magnifiquement exploré par Boris Thiollet dans son ouvrage « Lebensborn, la fabrique des enfants parfaits, enquête sur ces Français nés dans les maternités SS ». Parmi les 22 ou 25 000 enfants au total qui ont été, on pourrait dire, les sujets de ces maîtres du Lebensborn, de ces SS partis sur le projet délirant d'un eugénisme pour le Reich de Milan, parmi ces enfants figure Gisèle, et je suis heureux que Gisèle ait accepté de témoigner. Vous êtes rentré donc, vous avez été, comme nous l'a expliqué Boris il y a un instant, vous avez fait partie de ces enfants récupérés par les Nations Unies, sauvés, on peut dire, par cette équipe des Nations Unies qui sont rapatriés en France. À votre retour, vous avez été adopté et vous n'avez appris que vous étiez une enfant adoptée, comme souvent pour les enfants adoptés, qu'assez tard. Vous aviez quel âge ?
J'avais entre 8 et 10 ans.
Oui, c'est ça.
Et j'ai appris par les enfants de l'école, dans la cour de l'école, que j'avais été adoptée.
C'était sans pitié, les enfants.
Sans pitié. Mais heureusement que tous ne sont pas comme ça. J'ai eu un très gros choc. J'en ai parlé donc à mes parents qui m'ont confirmé que j'avais été adoptée. Et je n'ai jamais posé de questions. Mes parents auraient certainement voulu me donner beaucoup plus de détails. Ils m'ont montré mon dossier. Donc je savais bien que je m'appelais Magula Gisela. Mais après, j'ai tout occulté. J'ai passé mon adolescence. Après, bon, j'ai vécu comme tous.
Vous aviez gardé ça dans un coin de votre conscience, bien sûr.
Je ne voulais pas en savoir plus, en fait, parce que c'était quand même extrêmement lourd. Déjà, d'être adoptée, c'est vraiment terrible.
Très récemment que les choses se sont révélées,
oui.
Vraiment.
Alors, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants merveilleux, tout c'est formidable. Ma mère a commencé à vieillir, elle est allée en maison de retraite. Et si vous voulez, là le secret que j'avais enfui est commencé à ressurgir. Et je voulais absolument l'annoncer à mes enfants. Et quand ma mère est décédée en 2004... J'ai annoncé à mes enfants que j'avais été adoptée le soir où ma mère est décédée. Parce que vraiment, il fallait absolument que je perce cet abcès.
Vous nous parlez de votre mère adoptive,
ma mère adoptive,
je précise pour les auditeurs qui nous rejoindraient. Oui.
Et le lendemain des obsèques de ma mère, je suis allée voir ma cousine qui, à l'époque, avait 74 ans, donc elle connaissait quand même, a priori, mon histoire. Et là, je lui ai demandé d'où je venais, si elle savait pour quelles raisons j'avais été retirée de milieu familial, etc. Et c'est là qu'elle m'apprend que j'étais arrivée en train, venant d'Allemagne, et que je parlais allemand, et j'étais toute blonde, et que ce sont ses parents avec mes parents qui sont allés me chercher donc à la pouponnière de Commercy. Donc, bon, c'est quand même un petit peu le suspense, parce qu'on ne sait pas trop dans quelles conditions. Et on pense toujours que c'est les meilleurs. Et en fait, j'ai rencontré Walter, qui lui aussi avait déjà fait des recherches et qui habite près de Commercy, qui m'a indiqué, il m'a aidé à aller ouvrir mon dossier à la DAS. Et puis après, il m'a donné toutes les pistes. Bon. Et dans le dossier de la DAS, il y avait trois feuillets, trois, quatre feuillets. J'étais née à Végimont. Ça avait été fait par les Américains. Végimont, j'étais passée par Wiesbaden, Ansbach, Bad Polzin et Stenerin le 3 avril 1945.
Donc vous faisiez partie en vérité de ces enfants nés en Belgique, vous ?
Voilà, de Végimont. Mais donc j'ai écrit à la Croix-Rouge pour avoir un petit peu s'ils avaient des dossiers. Ensuite, j'ai écrit au service des personnes déplacées en Belgique. Puisque comme j'avais quand même mon nom, donc je venais de près de Liège, donc c'était peut-être un peu plus facile. Et je suis allée aussi à Undershof, j'ai pris contact avec ce collège pour savoir s'ils avaient des archives. Et en fait, ils avaient des archives et ils recherchaient les enfants qui étaient venus dans cet établissement. Donc j'y suis allée en octobre 2007, j'ai rencontré l'historienne Anna Andloer, qui, elle, essaie de faire des dossiers, parce qu'elle fait des recherches sur tous ces enfants qui ont été dans cet établissement. Et puis, en 2009, je suis allée aux archives de Bruxelles, où là, j'ai ouvert le dossier Magula, parce que les grands-parents venaient de Hongrie, donc ils étaient répertoriés, ils étaient suivis par la police belge.
Il y avait un dossier.
Voilà, le dossier du grand-père, de la grand-mère et des deux filles. Entre autres, je pensais que ma mère, c'était Ella, mais en fait, c'était sa sœur Margit. Puisque en reprenant les dates de présence sur Bruxelles, ça correspondait tout à fait. Donc c'est comme ça que j'ai appris qui était ma mère biologique.
Comment avez-vous vécu cette découverte?
Très mal, très très mal. C'est vraiment un choc énorme. D'être née dans une pouponnière avec cet idéal nazi sur les épaules, enfin, c'est terrible. Mais heureusement que j'étais bien entourée avec ma famille, mes amis, etc. Et c'est seulement depuis l'an dernier que je me considère comme victime de guerre.
Vous considérez que vous êtes une victime de guerre, une victime du nazisme ?
Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais depuis l'an dernier.
Et vous êtes un certain nombre à le vivre de cette façon, à vous considérer comme victime. Vous avez rencontré d'autres enfants issus du Lebensborn.
Oui, Walter, lui, il est victime. Il est aussi victime. Mais on est des victimes de guerre. Mais personne ne s'est occupé de nous. Le livre, qui est un témoignage, vraiment des enfants.
Je pense que ça va permettre de prendre conscience
tout à fait.
Mais
c'était
sujet.
Vraiment c'est très, très dur. Très dur. Mais maintenant, ça va.
Et est-ce qu'on peut dire que c'est une ironie, une autre ironie de l'histoire est assez belle. Vous avez épousé, vous, un Ivoirien.
Oui,
et donc, vous avez des enfants qui sont des enfants métis.
Bruns ou cheveux bruns.
Merci beaucoup, Gisèle, d'avoir accepté de témoigner. Nous avons beaucoup de messages et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous les lire. Je cite juste celui de Muriel qui me conseille de lire l'excellent roman de Nancy Houston qui s'appelle « Ligne de faille » sur un sujet extrêmement proche de celui-ci. On parle par ailleurs de l'eugénisme et de diverses tentatives qui ont pu être faites dans l'histoire. Je rappelle le titre de l'ouvrage de Boris Thiollet, Lebensborn, la fabrique des enfants parfaits. C'est une enquête sur ces Français nés dans les maternités SS. C'est publié chez Flammarion. Merci d'être venu et merci à vous Gisèle d'avoir témoigné. C'était un beau témoignage. Merci beaucoup.